Bon, parfait. C'est parti. OK. Alors, on est à la page 36. Bon, on va commencer. On va recommencer à la page 35. Ce sont les principes régulateurs et on va les passer un par un. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Suis le Prabhupada qui?
Hi.
Alors, on va recommencer ça à la page 35.
35, c'est petit
B.
c, petit b, pardon.
Petit B. Virginie, s'il vous plaît.
Petit b, ne pas manger de viande. La souffrance humaine a quelque chose à voir avec la consommation organisée de la chair animale. Les abattoirs sont là et les guerres se transformant en véritables boucheries humaines sont là par voie de conséquence. C'est très difficile à comprendre pour les mangeurs de viande d'y voir une conséquence karmique quelconque. La viande obscurcit le cerveau dès les premières bouchées. Quand le cerveau fait défaut, tout est foutu. Cependant, tout n'est pas totalement perdu, car pour remédier à la situation, c'est au final que l'écoute d'un pur dévot qu'il faut. Les paroles d'un pur dévot ont pouvoir de purifier le cœur de toute âme conditionnée, égarée par les ténèbres de l'ignorance. Parmi tant d'âmes égarées, une rare âme des plus fortunées profitera de l'écoute des propos d'un pur dévot et corrigera sa vie. Pour le reste, le karma et le temps feront leur œuvre.
Ben,
Petit c. Ne pas faire usage d'aucune substance enivrante. Tous sont suffisamment intoxiqués par le concept corporel de l'existence. Je suis ce corps, je suis de telle nationalité, etc. Pourquoi en ajouter une autre couche sous forme de substance enivrante? Un instant, papillon d'une soirée. Ici, c'est la raison qui parle. Petit dé est de rejeter tout jeu de hasard. Perte de temps, d'argent et d'énergie. Petit 4. Tout en s'engageant dans le service du Seigneur suprême. Avant de pouvoir s'engager dans le service de dévotion, il faut mettre de l'ordre dans sa vie, dans son cœur. Les directives d'un pur dévot sont essentielles à cette fin. L'association des dévots l'est tout autant par la suite. 5. Pourra facilement atteindre le même but. C'est la conscience de Krishna qui permet de suivre les principes régulateurs, car elle sait engager le mental. Le pivot de tous les sens au service de Krishna. Le mental est le chef de file des sens. Si le mental est conscient de Krishna, les sens seront engagés dans le service de dévotion offert au Seigneur suprême. 6. Sans devoir se soumettre à toutes les pratiques yogiques visant à maîtriser le mental. Arjuna reçut des lèvres même de Krishna tous les enseignements de l'Ashtanga Yoga visant la maîtrise du mental en fin de compte. Arjuna rejeta ces enseignements s'en trouvant incapable. 7. C'est une méthode fort simple que recommande Srila Rupa Goswami. Chanter, danser, festoyer. Parmi les 9 méthodes du service de dévotion, celle de l'écoute est la plus facile. Elle ouvre toutes les portes du cœur restées fermées. Le cœur peut enfin respirer l'amour de Dieu, de Krishna. La voie dévotionnelle
La
est
vie.
un virement. La vie dévotionnelle est un virement de cap à 360 degrés par rapport à la vie matérielle. Autant la vie matérielle va au gré du petit bonheur, autant la vie spirituelle est réglée dans un but bien précis. Nous présentons à cet effet un verset de la Bhagavad Gita 2.41. Vyavas siamit Mika, Buddhir, Ekaha Kuru Nandana, Buhu Shakahi Anantascha, Buddhayo, Vyavasya Nim Nam. Vyavasya Atmika, résolu dans la conscience de Krishna, Buddhi, intelligence, Eka, une seule Ika en ce monde, Kuru Nandana, ô enfant bien-aimé des Kurus, Bahu Shaka, ayant diverses branches, et en effet, Ananta illimité, Cha aussi, Buddhaya, l'intelligence, Avyavashyaninam, de ceux qui ne sont pas conscients de Krishna. Ceux qui empruntent cette voie se montrent résolus et poursuivent un but unique. Par contre, ô fils aimé des Kurus, l'intelligence de ceux qui n'ont pas cette détermination se perd en maintes directions. Teneur et portée. La ferme conviction que par la conscience de Krishna, on sera élevé à la plus haute perfection de l'existence s'appelle l'intelligence. Via Vashyat Mika. Le Chaitanya Charita Madhya 22.62 dit à ce propos, Shraddha Shabde Vishvasha Kahe Shodida Nishaya Krishni Bhakti Ke Kali Sarvab Karma Krita Aya. La foi, c'est la confiance totale en quelque chose de sublime. Celui qui remplit son devoir dans la conscience de Krishna se voit dégagé de toutes les obligations matérielles traditionnelles, tant familiales que nationales ou humanitaires. Les actions intéressées sont les répercussions d'actes passés, bons ou mauvais. Mais l'être conscient de Krishna n'a plus à s'efforcer de rendre ses actes favorables. Toutes ses actions se situent au niveau absolu, car elles ne subissent plus l'influence de la dualité, comme le bien et le mal. La perfection de la conscience de Krishna réside dans le renoncement à la conception matérielle de l'existence. On y parvient automatiquement en progressant dans cette voie. Un être conscient de Krishna puise sa détermination dans la connaissance. Vasudeva Sarvam Iti Sa Mahatma Shudarlaba. Il est l'une des rares âmes à réaliser que Vasudeva Krishna est la racine de toutes les causes manifestées. De même que l'eau versée à la racine d'un arbre va tout naturellement aux feuilles et aux branches, le dévot de Krishna rend à tous, à lui-même, à sa famille, à la société, à son pays ou à l'humanité, le plus grand service qui soit. Quand Krishna est satisfait de nos actes, tout le monde est satisfait. Il est préférable d'agir dans la conscience de Krishna sous la direction experte d'un maître spirituel authentique, représentant qualifié du Seigneur, qui, connaissant la personnalité de son disciple, peut le guider dans ses actes. Si l'on aspire à être versé dans la conscience de Krishna, on doit se montrer déterminé et obéir au maître spirituel, en se donnant pour mission de suivre ses directives. Srila Vishvanatha Chakravati Thakur nous enseigne dans ses célèbres prières au maître spirituel. Yashya Prashad Bhagavat Prashado. Yashya Prashadam Nagati Topi. Dhyayan Stuvam Tashyayasa Trishadyam Vade Gura Guru Shri Sharana Sharanarvinda. Si le maître spirituel est satisfait, Krishna est à son tour satisfait. Sans cela, nul ne peut s'élever jusqu'à la conscience de Krishna. Aussi dois-je, 3 fois par jour, méditer sur mon maître spirituel, implorer sa miséricorde et lui rendre mon hommage respectueux. Cette méthode, toutefois, repose sur la connaissance parfaite de l'âme, au-delà du concept du corps, connaissance non seulement théorique, mais pratique, à un niveau où l'on ne recherche plus le plaisir matériel à travers l'action intéressée. Car celui dont le mental n'est pas fixé se perd dans toutes sortes d'activités intéressées.
Merci beaucoup.
Hare Krishna, merci.
Om Gyanatimanandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce qui a été lu?
Lionel
Ouais.
1. Ça explique un peu aussi le fait de devoir devenir un pur dévot de Krishna. C'est un grand service qu'on rend à l'humanité aussi en même temps. Ça fait de nous ça fait de nous des gens de plus lumineux qui fait en sorte que Krishna se manifeste à travers nous et donne une influence autour de nous. Donc, l'important de faire chez nous, dans notre quotidien, à notre travail, dans notre milieu de vie, plutôt que de s'évader sur une montagne, dans une grotte, puis prier, puis je pense que le service est grand aussi, le fait qu'on est dans le peuple, qu'on essaie de on veut rayonner cette présence-là qui est Krishna.
Oui, tout à fait. Et cependant, disons, philosophiquement parlant, il y a deux sortes de dévots. Il y a un dévot qui pratique tout seul, et celui-là, il est appelé Bhajanananda. C'est un dévot solitaire. Il va faire des bhajans et il est dans son coin. Ce dévot-là ne prêche pas. Il y a l'autre type de dévot qui est un dévot prédicateur. Alors celui-là, c'est sûr, il va aller dans la société ou il va se mêler à d'autres dévots. Il va, comme Śrīla Prabhupāda, de ce genre de dévot-là qui veut aller à la société, veut que la société vienne, disons, rencontrer des dévots. Et il a institué la ISKCON, la Société internationale pour la conscience de Krishna, à cet effet-là. Et en fait, un dévot de ce type-là, c'est un dévot qui fait preuve d'une grande compassion. Parce que le dévot qui est juste occupé par ses bhajans de son côté, ben, c'est beau, mais ça concerne Krishna, mais c'est pas avec un dévot comme ça que la société va être très avantagée. Alors, on n'est pas là pour critiquer, mais c'est juste que philosophiquement parlant, je suis le propre d'expliquer ça. Il y a deux genres de dévots. Il y a ceux qui sont dans leur endroit, un endroit solitaire, un endroit sacré. Toi, comme Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita à Arjuna de pratiquer le yoga seul. Et comme Prabhupada l'a expliqué aussi, pourquoi ça ne fonctionne pas les écoles de yoga modernes? Parce qu'une des premières choses, c'est que c'est le lieu où ils pratiquent. Ce n'est pas un lieu sacré. Ah, c'est un lieu, tu loues une salle, tu fais venir du monde, puis tu fais du yoga. Ce critère-là n'est pas respecté, plus qu'il ne le faut. Puis en plus, les maîtres de yoga ne sont pas très stricts pour enseigner justement de suivre les principes régulateurs qui sont à la base, mettons, de la conscience de Krishna. Alors, comme ne pas manger de viande, ne pas s'intoxiquer, ne pas de jeu de hasard, pas de spéculation, ça fait pas partie des enseignements, ça. Parce que ils sont intéressés à avoir du monde, avoir des cotisations pour les cours. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas, comme Prabhupada, il dit ça, que c'est, il n'y a pas d'avancement spirituel dans cette façon de faire-là. Alors, ça, on l'a lu ça dernièrement, Prabhupada qui explique ça comme ça. Alors, qu'est-ce que Prabhupada donne? C'est le Bhakti Yoga, mais un Bhakti Yoga de qualité. C'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix pour avoir la vraie chose. Comme Prabhupada explique, si par exemple vous vendez des diamants, ben, vous n'aurez pas beaucoup d'acheteurs. Parce que qui veut acheter des diamants, de un, il faut qu'il connaisse les diamants. C'est pas n'importe qui. Et puis, il faut qu'il ait les moyens aussi, là. Alors, la philosophie de la conscience de Krishna, c'est pour les dévots qui sont très sincères et qui veulent ultimement arriver au but. Et le but, c'est de s'abandonner à Krishna. Et ultimement, c'est de retourner dans la position originelle, qui est d'être un serviteur libéré dans le monde spirituel auprès de Krishna. Alors, tout ça, ça fait partie du cheminement de la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
Où le dévot est rendu, est-ce que ça fait partie de son karma ou de la conscience qui est acquise de cette vie? Parce que c'est pas tout le monde qui est à différents, tout le monde est à différents niveaux de d'état de conscience de Krishna là. Mais est-ce que c'est le karma, veut dire on est exactement où ce qu'on a laissé dans notre vie précédente, ou c'est que notre désir d'amour du présent qui nous amène là,
Ben,
Dieu.
disons, il y a dans la Brahma Samhita, il y a un verset dans lequel c'est expliqué que quand un dévot rencontre des difficultés, des souffrances, des moments difficiles, il attribue ça à ses réactions de mauvaises actions dans le passé. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir les difficultés comme une manifestation de la grâce de Krishna. Et le service de dévotion, ce n'est pas du karma. En fait, c'est akarma. Il n'y a pas de réaction pour les actions qui sont posées dans le Bhakti Yoga, le service de dévotion à Krishna. Autrement, ça vaut pas la peine de, si c'est du karma, ça vaut pas la peine de servir Krishna.
Pourquoi?
Parce que, disons, ça, c'est basé sur le même argument qu'Arjuna avait avant de combattre. Arjuna pensait, ah, je vais encourir toutes sortes de réactions parce que je vais devoir tuer les membres des membres de ma famille. Alors il prenait tout sur ses épaules. Il pensait qu'il était le contrôleur. Mais Krishna lui explique la Bhagavad Gita, lui chante la Bhagavad Gita. Puis finalement, Krishna lui dit, ben, tu vas simplement agir comme un instrument pour moi. Et moi, je te protège de toutes les réactions que tu pourrais encourir. Alors, c'est expliqué que agir dans la conscience de Krishna, c'est comme ne pas agir. Alors, les impersonnalistes, eux autres, veulent ne pas agir pour ne pas encourir de réaction. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui dit, celui qui voit l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action voit les choses telles qu'elles sont. Krishna qui dit ça dans la Bhagavad Gita. Alors, quand on agit pour Krishna, c'est comme ne pas agir, mais matériellement. Et si on n'agit pas, si on fait rien, c'est considéré de l'inaction. Mais l'inaction, ce n'est pas une inaction matérielle. C'est une inaction en rapport avec faire son devoir dans la conscience de Krishna. Alors, si Arjuna refuse de combattre, c'est considéré de l'inaction, mais cette inaction-là est synonyme de ne pas faire son devoir que Krishna s'attend de lui. Ça, c'est inaction. Alors, l'action, ça veut dire ça veut dire agir. Si on agit pour Krishna, c'est considéré de l'inaction. Il n'y a pas de réaction pour ça. Mais si on agit pour soi-même, là, il y a une réaction. parce que c'est pas Krishna qui veut qu'on agisse de telle ou telle façon. Est-ce que c'est...
Et le « je », le « moi », c'est si le « je » prend la domination de l'action, le « moi », c'est là que ça devient karmique. C'est moi qui le fais, c'est moi. C'est comme, à place d'essayer de faire, c'est d'être, non? Juste d'être. C'est la volonté de faire la volonté que Krishna désire. C'est juste d'être.
Oui, sous la directive d'un maître spirituel authentique. Parce que ça, on n'est pas indépendant dans notre bonne volonté de vouloir servir Krishna. Alors, comme Krishna a dit, celui qui dit qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot, mais celui qui dit qu'il est le dévot de mon dévot, celui-là est mon dévot. Alors, on n'est jamais indépendant, disons, de décider par nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire pour Krishna. Alors, ça, c'est un point qui est important et aussi qui est un peu difficile à cerner lorsqu'on n'a pas beaucoup d'associations de dévots. Alors, le maître spirituel nous donne des directives, les enseignements de Srila Prabhupada, par exemple, et on veut bien les suivre. Et ça nous encadre dans le, ça nous donne un encadrement dans le service de dévotion. Mais si on prend certaines décisions, disons, qui sont un peu douteuses par rapport au service de dévotion, ben là, on est plus ou moins en train de jouer avec le feu. Est-ce que c'est assez clair? Bon, donnons un exemple, là. Disons, si on peut le classer de banal. Par exemple, si, en ce qui concerne la nourriture, si on sait qu'on devrait pas manger telle ou telle nourriture, ou qu'on devrait pas offrir à Krishna telle nourriture, même si c'est végétarien, on court après le trouble, là. C'est pas la même chose que, ça, vous pouvez vous en apercevoir très facilement. Quand vous allez au temple et que là, on vous offre du prasad qui a été vraiment offert aux déités, vous pouvez goûter la différence. Est-ce que c'est assez clair? C'est un exemple comme ça.
C'est vrai, c'est un autre goût complètement, même dire, la saveur, le détox, ça t'emmène après. Il n'y a pas d'autre nourriture qui te donne ça.
Exactement.
On se sent fini.
Ouais. Même les invités qui viennent au temple le dimanche, ou même peut-être un samedi au lieu d'un dimanche, puis qui prennent le prashad, et souvent il va y avoir des commentaires. Ah, oh, c'est vraiment bon. T'sais, c'est comme ils sont pas capables de matcher le goût avec quelque chose d'autre qu'ils auraient goûté auparavant. Parce que c'est du prashad, c'est offert à Krishna.
Beaucoup d'amour.
Oui, l'amour de Dieu, l'amour de Krishna qui est dans la nourriture elle-même et la grâce de Krishna qui fait apprécier le prashad à la personne qui mange le prashad. T'sais? Si la personne n'est pas attentive, n'est pas plus consciente de Krishna, elle n'aura pas nécessairement grande réalisation. Elle va avoir un bénéfice spirituel à son insu, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Parce que le prashad, c'est Krishna. Mais quelqu'un qui a une conscience de Krishna, il va apprécier. Il va voir que, voilà, wow, la miséricorde de Krishna. Alors, c'est pourquoi il y a un principe qui veut que quand un dévot offre à un autre dévot du prasad. Ça, c'est un des, une, parmi les relations affectueuses entre les dévots. Donner du prasad, recevoir du prasad, la nourriture offerte à Krishna. Alors, c'est un des échanges d'affection entre les dévots. Alors, c'est dit que quand tu reçois du prasad, tu devrais l'honorer tout de suite. Tu devrais pas attendre. Parce que c'est Krishna qui vient sous la forme de la nourriture. Et cette nourriture-là est honorable en la consommant immédiatement. Évidemment, temps, circonstances et individus, des fois, ça peut-être que c'est pas possible, mais si c'est, il n'y a pas d'empêchement ou quoi que ce soit, ben c'est comme ça que ça devrait se passer. Un dévot donne du prasad, tu acceptes le prasad. Et puis, merci beaucoup, Prabhu, Hari Bol, Hari Krishna. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK. Alors, voyons voir ici. Alors, on va commenter le dernier paragraphe qu'on a lu aujourd'hui. Cette méthode, toutefois, repose sur la connaissance parfaite de l'âme au-delà du concept du corps. Connaissance non seulement théorique, mais pratique, à un niveau où l'on ne recherche plus le plaisir matériel à travers l'action intéressée. Car celui dont le mental n'est pas fixé se perd dans toutes sortes d'activités intéressées. Bon, la dernière phrase, ça c'est assez facile à figurer, mais la première phrase, ça c'est intéressant. Alors, cette méthode toutefois repose sur la connaissance parfaite de l'âme, au-delà du concept du corps, connaissance non seulement théorique mais pratique, à un niveau où l'on ne recherche plus le plaisir matériel à travers l'action intéressée. Tout ça, ça va ensemble. Alors, si on s'identifie avec le corps, c'est sûr que on va s'identifier avec les demandes du corps puis les imaginations du mental. Par contre, si on est fixé, qu'on ait une âme spirituelle, ça change la donne. Mais, comme c'est dit ici, connaissance non seulement théorique, mais pratique. Alors, si la connaissance est vraiment réalisée pratiquement, là, on passe au niveau où l'on ne recherche plus le plaisir matériel à travers l'action intéressée. Et ça, c'est le genre de réalisation qui, ça prend du temps avant de s'installer dans le cœur d'un dévot. C'est pas évident, évident. Et c'est pas du jour au lendemain non plus. Mais c'est sûr que ça vient avec le temps. Mais si pour un dévot, c'est déjà là, ben c'est merveilleux. Il a déjà fait du progrès suffisamment spirituellement parlant qu'il est rendu là maintenant. Les plaisirs matériels ne représentent pas grand-chose pour lui, pour ne pas dire que ça représente rien du tout. Il n'est pas attiré. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Il n'est pas attiré parce qu'il n'a plus d'identification au corps. Il est par-dessus ce concept que je suis encore. Alors, il y a vraiment plus d'intérêt pour lui.
Oui, il y a aussi l'atmosphère dans laquelle le dévot évolue aussi. L'atmosphère qui fait qu'il est entouré de dévots qui pensent la même chose. Alors, l'association est pour quelque chose. Mais toujours est-il que dans son cœur, le dévot doit avoir évolué, que c'est là qu'il est rendu. Qu'il est plus, disons, attaché à être conscient de Krishna que de vouloir être esclave de demandes sensorielles. Alors, ça demande une réalisation spirituelle, à savoir le corps est temporaire, l'âme est éternelle, et c'est quoi mon vrai business? Ma position constitutionnelle, qu'est-ce que je dois vraiment faire? Que dois-je faire si j'agis? Ben, c'est de servir Krishna, être conscient de Krishna. Ne pas, disons, m'empêtrer dans les demandes superflues du corps matériel. Alors, le corps matériel, on ne peut pas en faire abstraction à 100%. Sinon, c'est aussi bien d'être mort. La journée qu'on sera mort, on pourra dire, mais on ne le dira pas parce qu'on sera pas là, que maintenant on fait abstraction totale des demandes des sens du corps matériel. Mais ça va pas arriver tant qu'on est dedans. Mais cependant, il faut faire preuve de jugement, de discernement, et juger, à savoir, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. Alors, en ce qui concerne les demandes du corps, Prabhupada, il touche à ce sujet-là, dans la Bhagavad Gita. Ben, dans quelle mesure on satisfait les demandes du corps? Quelle est la réponse?
Au strict minimum.
Oui,
manger, dormir.
Strict minimum, ça, c'est une bonne réponse. Il y a une autre réponse que Prabhupada donne. Prabhupada dit, dans la mesure où il faut garder l'âme et le corps ensemble. Vous avez pas lu ça un peu dans les livres de Prabhupada? To keep the soul and body together. Alors, quand on mange, par exemple, on peut manger. Et tout ça, c'est libre à chacun. Tu peux manger plus que nécessaire, ou si tu veux aller dans l'autre sens, pas manger assez non plus, qui est une autre extrémité. Alors, faut manger de façon à être satisfait, garder l'âme et le corps ensemble. Voilà. Alors, c'est comme si quelqu'un, par exemple, disait, ah, moi, le corps matériel, c'est une source d'empêtrement. Alors, je ne veux plus manger. Mais c'est ridicule. Tu ne peux pas penser comme ça. Puis deuxièmement, combien de temps tu vas tenir le coup? Tu veux être bien spirituel. Tu peux pas imiter, comme Prabhupada dit, on ne devrait pas imiter les Goswami. Les Goswami de Vrindavan, les disciples du Seigneur Chaitanya, à peine s'ils mangeaient à tous les jours. À peine. Mais on ne peut pas les imiter. À peine s'ils dormaient, pas beaucoup non plus. Mais on ne peut pas les imiter, Prabhupada explique. On peut suivre dans leurs traces, mais ne pas les imiter. Alors, faut chausser les chaussures qu'ils nous font. Pas les trop grandes chaussures et pas les petites chaussures non plus. Celles qu'ils nous font, c'est correct. Voilà.
En fait, il faut entretenir le corps, dans le fond.
C'est ça. C'est ça, les besoins du corps au minimum. Et comme une fois j'étais avec Prabhupada personnellement, et Prabhupada m'avait dit que, et c'est pas juste à moi qu'il avait dit ça, parce qu'il y a d'autres dévots à qui j'ai raconté, puis ils m'ont dit, Prabhupada disait ça à d'autres aussi, à savoir... Prabhupada disait, plus on devient avancé spirituellement, plus les activités de manger, dormir, se reproduire, se défendre, viennent jusqu'au point de zéro. Le Prabhupada m'avait dit ça personnellement. Alors, c'est un signe d'avancement si on a un certain désintérêt. Mais ça veut pas dire que faut courir après le trouble, puis jeûner inutilement. Comme Prabhupada aussi il parle de ça dans le Bhagavad Gita, à savoir le jeûne. Un dévot va observer les jours de jeûne, mais il va pas s'inventer des jeûnes. Ce sont des jeûnes dans le mode de l'ignorance. Alors, comme par exemple, jeûner pour des raisons politiques. Ça n'a rien de spirituel. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, un gars, il veut sortir de prison, puis il dit, je vais jeûner tout le temps, jusqu'à temps qu'il me sorte de là. Ben, attends un peu, là, voir s'ils vont vraiment te laisser sortir de un, puis de deux, quand tu vas sortir, peut-être tu vas déjà être mort. Tu veux jeûner, alors vas-y. Alors, il y en a qui font des grèves de la faim, mais ça n'a rien de spirituel. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Gandhi, c'était...
Oui?
Je veux dire, Gandhi, c'en était un qui faisait ça, qui avait fait le jeûne, là.
Mm-hmm. Ouais. Mais ça vaut ce que ça vaut. Comme Prabhupada dit, Gandhi était un politicien. Alors, ça... il a aidé son pays, mais Prabhupada dit aussi, à la fin, il a été assassiné. Alors, c'est ça le service au niveau matériel. C'est... Tu sais pas comment ça va tourner. OK. Autre question, Jésus, commentaire? Oui?
Moi, Jésus, il disait, j'ai une nourriture à prendre que vous ne connaissez pas.
Oui, ça, c'est correct.
Ça veut dire qu'il était, les gens très, très spirituels sont nourris par Dieu, Krishna, là, tu sais, c'est comme, ils sont tellement centrés, tellement en parfait samadhi qu'ils ont moins besoin de se nourrir physiquement.
Ouais. Ils sont élevés.
Ouais, exact.
Sont très élevés spirituellement parlant. Alors, c'est ça, les grands Vaishnavs, les grandes âmes libérées ne peuvent pas être imitées par des âmes conditionnées. C'est au-delà. Alors, on peut apprécier leurs enseignements puis essayer de suivre dans les enseignements qu'ils donnent. Simplement. OK, alors on va. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, c'est intéressant d'avoir passé à travers les principes régulateurs. Et puis les petits commentaires, ben, je trouve qu'ils sont assez pertinents. Alors, le verset de la Bhagavad Gita, Vyasayatmika Buddhir, de ceux qui empruntent cette voie se montrent résolus et poursuivent un but unique. Par contre, au fils aimé des Kurus, l'intelligence de ceux qui n'ont pas cette détermination se perd en maintes directions. Alors, ça, on appelle ça en sanskrit « Ekea Kuru Nandana » poursuit un unique but. Alors, c'est quoi le unique but de l'intelligence qui est consciente de Krishna?
C'est quoi la question?
Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence qui poursuit un but seulement, comme le verset qu'on a lu là? Chapitre 2, verset 41 de la Bhagavad Gita. Ceux qui empruntent cette voie se montrent résolus et poursuivent un but unique. Par contre, au fils aimé des Kurus, l'intelligence de ceux qui n'ont pas cette détermination se perd en maintes directions. C'est quoi le but unique?
Servir Krishna.
Oui. Servir Krishna un peu plus précis.
Plaire à Krishna.
Plaire à Krishna. Parce qu'on peut servir Krishna, mais ouais, disons
Notre
vraiment.
façon.
Pardon?
À notre façon, on peut servir Krishna qui ne veut pas dire nécessairement qu'on plie à Krishna.
Ouais, disons sous la directive d'un maître spirituel authentique, on peut pas se tromper. Qu'on essaye de plaire à Krishna en suivant les instructions. Et dans les débuts d'une pratique comme ça, c'est pas nécessairement qu'il va y avoir un grand plaisir à le faire. C'est un peu amer sur les bords, mais c'est à force de persévérer, d'avoir foi et confiance dans le processus du service de dévotion, que à ce moment-là, ce qui est amer va devenir doux comme du nectar. C'est la promesse de Krishna dans la Bhagavad Gita. Alors, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a trois sortes de bonheur. Il y a le bonheur dans la vertu, dans la passion, dans l'ignorance. Mais dans la vertu, c'est un bonheur qui semble amer au début, mais qui à la fin devient doux comme du nectar. Et dans la passion, c'est doux comme du nectar au début, mais à la fin, ça devient amer comme du poison. Et dans l'ignorance, ben, c'est l'indolence, la paresse, être amorphe, c'est le bonheur dans l'ignorance. Ne rien faire, être complètement, comme on dit, effoiré, c'est dans l'ignorance. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont après le bonheur dans la vertu, mais ça existe pour les dévots conscients de Krishna. Autre question ou commentaire?
C'est ce qu'on appelle les austérités, quand qu'on commence de vouloir appeler à Krishna, comme vous dites, c'est pas nécessairement le fun ou plaisant au début. C'est ça, les austérités, en fait.
Exactement. C'est parce qu'on n'a pas l'expérience. On ne comprend pas encore l'utilité, disons, dans le temps de l'austérité en question. C'est comme quand j'étais nouveau dévot au temple de Montréal, Park Avenue. Ben, on allait chanter tous les jours sur la rue Sainte-Catherine. Et moi, j'ai joint au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, c'est pas le mois le plus chaud. C'est l'hiver, en fait. Alors, j'ai joint le 23 novembre, précisément, en 70. Et on allait chanter tous les jours, sur la rue Sainte-Catherine. Deux fois par jour, le matin vers les 10h30, 11h jusqu'à 14h, et l'après-midi de 15h30, 16h jusqu'à 18h. Ça nous faisait à peu près 4 heures de sankirtan chanté sur la rue Sainte-Catherine. Beau temps, mauvais temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse tout. On y allait pareil. Et on s'habillait en conséquence parce que l'hiver était plus rigoureux dans ces années-là qu'aujourd'hui. Et on le faisait. Mais quand t'es nouveau, tu fais juste suivre le groupe. Tu dis, bon, ben, c'est ça qu'il faut faire, ben, on va le faire. Mais quand les années ont passé, aujourd'hui, tu te dis, ça, c'était vraiment du bon temps. D'aller chanter comme ça deux fois par jour, c'était du bon temps. La rigueur de l'hiver, c'était pas vraiment un critère pour dire, ah, cette action-là, c'était vraiment pas bon. Au contraire, c'était bon. Peu importe l'austérité qui était impliquée, spirituellement parlant, c'était très bénéfique de l'avoir fait. Puis quand tu es capable de passer à travers ça, ben, il y a bien d'autres choses que tu es capable de passer à travers dans le service de dévotion. Ça, ça forme son homme de faire ce genre d'austérité-là, parce que surtout si c'est encore moins difficile, hey, il n'y a rien là, là. Puis il y a aussi l'exemple des dévots. L'exemple, il est pour quelque chose. Des dévots qui font pas de chichi avec l'austérité à passer à travers. Finalement, c'est inspirant dans le service. Et tu vois d'autres dévots qui sont enthousiastes, qui ont le sourire aux lèvres, même si soi-disant c'est difficile ou austère. Il y a des dévots que ça ne les affecte pas vraiment, ces affaires-là. Et ça, c'est inspirant. Tu dis, ouais, ça c'est... Tu gardes des bons souvenirs de dévots comme ça.
Mais c'est une époque aussi, l'amour était plus sincère, était beaucoup plus vrai. Je me rappelle un peu des années 70, là. C'était pur, c'était naïf, c'était du sincère. Ça sortait du cœur. Aujourd'hui, il y a comme des raisons pourquoi on le fait, pour la libération, pour ci, pour ça. C'était pas comme... C'était pur dans ce temps-là, je vois, à mon avis, tu vois.
Ouais, mais je serais pas prête à dire ça. Disons...
Moi non plus, hein. C'était pas pur, hein.
Que les dévots, un dévot de temple, il n'y a pas de questions vraiment à poser. T'sais, il peut poser des questions à savoir ben, pourquoi qu'on fait ça, on va te l'expliquer. Mais une fois qu'on te l'a expliqué, il n'y a plus de questions à poser. Là. C'est genre, fais-le, suis le groupe. Et puis, that's it, that's all. T'sais, si tu vas chanter à faire du Harinam Sankirtan, il se met à pleuvoir d'un coup, ben ça, tu peux rien faire pour ça. T'es rendu, là. Alors, tu composes avec ça. Mais disons que on peut dire qu'il y avait des circonstances qui sont plus faciles, je dirais, aujourd'hui que dans les années 70. Mais ça change pas. Qu'un dévot doit être conscient de Krishna, peu importe qu'est-ce qui arrive. Ça change pas, ça. Est-ce que d'autres questions, commentaires?
Oui, parce que qu'est-ce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est discordant dans la société ressort beaucoup plus que ce qui est harmonieux. C'est pour ça que ça fait peut-être pareil que c'est moins, il y a moins d'amour qu'avant, mais dans le fond, il y en a autant, c'est juste que c'est plus invisible. Parce que l'autre est trop visible. Le mal est trop visible.
En tout cas, c'est relatif, OK? Comme on a lu aujourd'hui, il y a un petit passage qu'on a lu, OK, voilà, c'est la page 37, la ligne 19 et jusqu'à 22. C'est dit ici qu'on parle des actions d'un dévot, là. C'est marqué, toutes ces actions se situent au niveau absolu, car elles ne subissent plus l'influence de la dualité, comme le bien et le mal. La perfection de la conscience de Krishna réside dans le renoncement à la conception matérielle de l'existence. On y parvient automatiquement en progressant dans cette voie. Alors, le bien ou le mal pour un dévot, c'est basé sur quoi?
Dualité, le bien et le mal, c'est...
Non, c'est basé si c'est bien ou si c'est mal par rapport à Krishna, en fait.
C'est ça. Ça, j'ai dit, pour un dévot, le bien ou le mal, c'est basé sur quoi?
C'est ça, pour un dévot,
c'est
bien ce que tu as dit, sur Krishna. Parce que quand on regarde la guerre de Kuruksetra, c'est quand même une guerre, quoi. On pourrait dire, waouh, ben non, c'était la volonté de Krishna. Et d'ailleurs, on a le témoignage par la Bhagavad Gita.
Exactement. Alors, le point, c'est, si c'est bien pour Krishna, ça va. C'est acceptable, c'est correct. Si ça ne l'est pas, c'est pas bon. Il faut toujours s'arranger pour que ça soit compatible avec le désir de Krishna, avec la volonté de Krishna. Et ça, c'est le standard. Essayer de plaire à Krishna. Alors, à ce moment-là, si c'est le cas que quelqu'un ne pense qu'à la satisfaction de Krishna, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et comme Prabhupada dit, au niveau matériel, même le bien est mal. Alors, c'est parce que Prabhupada dit au niveau matériel, tout est mal. Même si ça a l'air bien, comme par exemple, tu regardes, quand j'étais en France, je vais raconter ça, on faisait chaque ville et village. Et t'arrives dans un petit village ou une petite ville, c'est toujours le même pattern. Il y a une église, puis ensuite ça fait une espèce de carré. Tu as les magasins, les boutiques, et dans chaque ville et village, tu as la boucherie, la boulangerie. Au moins ces deux-là, ils sont toujours là.
Et le café aussi, tu oublies le café.
Oui, le bistrot, le café.
Le bistrot, ouais, ça.
Le fameux bistrot, oui. Alors, il y a des trucs, il y a des trucs qui sont toujours là. Partout où tu vas, c'est toujours là, tout le temps. Alors, pour les gens qui, pour eux autres, c'est bien. C'est correct que ça soit comme ça. Mais pour quelqu'un qui est conscient de Krishna, c'est une autre paire de manches. C'est une autre façon de voir. Alors, tu vas aller à la boulangerie. Tu vas aller acheter du pain. Mais avec l'idée que le pain, en fait, c'est pour se nourrir et pour offrir à Krishna. Alors ça aussi, c'est un autre point là, que je veux mettre au clair parce que à un moment donné, les dévots, quand on était sur la route, on mangeait pas de pain. Et on mangeait qu'est-ce qu'on se débrouillait avec pour cuisiner parce qu'on sait que comme dévots, il faut manger la nourriture qu'on a cuisinée nous-mêmes, qu'on a offert à Krishna. Mais à un moment donné, un dévot, je sais pas où, en quelque part, qui a demandé à Prabhupada si quand on est sur la route, on peut manger du pain. Et Prabhupada a dit oui. Alors là, ça a changé la donne, parce que c'est quelque chose, là. Si t'es sur la route, puis tu sais, je veux bien croire, là, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais il faut que tu t'organises pas à peu près. Mettons, tu te dis, ah, moi, je mange pas de pain parce que je suis un dévot, mais je peux manger des chapatis. Ben oui, mais fais-les cuire, tes chapatis, quand tu vas être sur la route. Tu vas voir combien de temps ça prend. Puis nettoyer, puis tout ça. Puis être pratique. En tout cas, on a demandé à Prabhupada. Prabhupada a dit oui. Alors ça résout un problème. Et puis, that's it, that's all. Des fois, il faut être pratique. Comme une autre fois, il y a un dévot qui explique à Prabhupada le sucre blanc. Et le sucre blanc, c'est fait avec les os des bœufs, des
oui.
animaux. Le blanchiment. Et il parle de ça à Prabhupada. Prabhupada a répondu, ben, on n'est pas pour arrêter de manger du sucre.
Alors, wow.
Problème est réglé. Alors, tu vois, là, le genre de mentalité d'aller creuser dans les moindres petits détails puis essayer de voir si c'est conscient de Krishna, pas conscient de Krishna, c'est bon jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, là, c'est la logique du dévot qui guide, qui doit prédominer, c'est tout, parce que sinon il y a trop de problèmes. Et ça, c'est quelques exemples. Alors, comme Prabhupada dit, 50 pour le gros bon sens, c'est 50% de la conscience de Krishna. Le gros bon sens. Alors, à un moment donné, si on sait pas quoi faire, là, ben, faut demander au gros bon sens, c'est quoi, toi, ta réponse? Puis y aller pour le gros bon sens. Être pratique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
En fait, dans ces situations-là, c'est la pureté d'intention qui compte aussi, là.
Ouais, il y a ça aussi. C'est des fois, tu peux faire quelque chose peut-être qui est pas bon, mais ton intention, elle, n'était pas mauvaise. Là, ça peut arriver parce que la vie matérielle est ce qu'elle est. Ah, tu sais, je sais pas moi. T'as mangé quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient dire, ben, il y avait de l'alcool là-dedans, Prabhu. Mais toi, tu l'as bu, tu sais, OK, on va acheter tel truc. Mais tu t'en es pas rendu compte, puis jamais t'aurais pensé que. Mais, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu vomir? Non, c'est trop tard, mais l'intention n'était pas mauvaise. Alors Krishna comprend dans ces circonstances-là que Krishna, il excuse le dévot quand c'est des fautes par accident comme ça. Mais il faut pas prendre avantage. Prabhupada explique ça comme ça aussi, là. Il faut
C'est comme
pas... Pardon?
comme Arjuna, son intention, c'était pour le bien comparé aux deux armées. Il y avait une armée, c'était l'intention matérielle du pouvoir et tout, et Arjuna, c'était the righteous, chose. Alors, il faisait la même action, mais l'intention était différente.
Ouais. Tout le monde était combattant, que soit d'un bord comme de l'autre. Mais un combattait pour Krishna, puis l'autre, ben, combattait pour des objectifs matériels.
Pour lui-même, en fait. Il combattait pour lui-même, pour leur camp, pour leur nom, pour leur...
Ouais, exactement. Alors, la beauté de la conscience de Krishna aussi, c'est que des fois, tu es dans une situation que c'est la vie qui t'a mis dans telle ou telle situation. Comme par exemple, un dévot qui est militaire, qui sert dans les forces armées, soit par choix ou par obligation, qu'est-ce qu'il va faire? Il a été, mettons, conscrit. Il faut qu'il se rapporte. Puis là, ils ont dit, OK, on vous accepte. Ben là, t'es cuit, là. Ta liberté, oublie ça, là. T'es dans l'armée, t'es conscrit, mettons, pour 1 an, 2 ans, ou je sais pas quoi. S'il y a une guerre, t'es obligé d'y aller. Veux pas. Alors, il faut qu'il s'arrange pour être conscient de Krishna malgré tout. C'est la vie qui est faite comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben, celui qui va à l'armée, que le pays dans lequel que lui est obligé de faire la guerre, ils font la guerre, le pays, mais pas pour une bonne chose. Alors lui, il paye pas son karma, on va dire, il fait son service, non?
Ouais, c'est ça.
OK.
Il fait son service et puis si jamais il meurt au combat, ben il est assuré d'avoir une vie dans une planète supérieure.
Même si le pays pour lequel il se bat, c'est pas des bonnes intentions pourquoi qu'il se bat. Tu sais, c'est pour le pétrole, je sais pas, tu sais, il y a rien de righteous.
Mais lui, il a fait son devoir, c'est tout.
Ok, c'est sûr.
Alors, il y a des pas, en tout cas, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita par Prabhupada que quelqu'un fait son devoir. Donc, c'est comme, bon, ça c'est expliqué dans le premier chapitre de Bhagavad Gita où Arjuna hésitait à tuer Bhishma et Dronacharya. Alors, Prabhupada explique ça, là. Quelqu'un meurt au combat, ben, il va être élevé à une planète supérieure, en particulier Bhishma et Dronacharya. Alors, quelqu'un fait son devoir et il peut s'attendre à être élevé dans sa prochaine vie. OK. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres questions ou commentaires.
C'est
Merci
passé vite
beaucoup.
le temps. Oui.
Oui, ça passe vite,
Oui.
effectivement. Alors, on va se revoir le samedi. Il va y avoir un cours. Alors, merci beaucoup. C'est toujours apprécié.
Allez, Krishna, tout le monde, merci.
Pareillement partagé.
Merci.
Allez,
Passez
Krishna, Libourg.
une bonne
Krishna.
semaine.
Bonne
Merci
fin.
beaucoup.
Bonne semaine.
Allez, Krishna. Allez,
Allez,
bon.
Krishna, allez,
Allez,
bon. À très vite.
bon. Jai.
Ciao.
Jai. Alors. Voilà.